Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Aujourd'hui, nous lisons un album qui a pour titre « Blanc autour ». Alors, dans l'immédiat, ça ne vous dira pas grand-chose, mais vous allez comprendre au fur et à mesure. Et je trouve que la couverture nous y aide d'ailleurs. On y reviendra là aussi dans quelques instants. Il s'agit d'un album avec au scénario un certain Wilfried Lupano, ou Lupano, que nous avons déjà fréquenté assez régulièrement dans cette chronique. Et au dessin, Stéphane Fer, c'est une parution d'Argo. Alors, le premier, est-ce qu'il faut vraiment le présenter, Thierry ? Quelques mots.
Je pense que c'est un des scénaristes les plus tout-terrain qu'on puisse imaginer, avec une qualité d'écriture assez remarquable. Cet album, Blanc autour, c'est à mon avis d'ores et déjà un des meilleurs albums de l'année.
Donc, ça y est, vous l'avez dit.
Voilà, ça y est, tant pis, j'ai osé, quoi qu'il arrive. Oui, je ne suis pas un fan absolu de Lupano, mais c'est quelqu'un qui est un peu comme Zidrou. Il donne dans beaucoup de genres, avec un éclectisme assez remarquable. Il peut être très bon, et là, il est vraiment remarquable dans le sens où... j'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. Je trouve que c'est un album qui est très bien écrit. Et je lis beaucoup d'albums de BD. Alors, je travaille dans la bande dessinée, pas en tant qu'auteur, mais en tant que diffuseur. On va trouver que j'ai la dent dure et un peu facile, parce que c'est facile de critiquer alors que j'ai absolument aucun talent de créateur.
Mais on ne citera personne, hein, rassurez-vous.
Mais je lis souvent des albums qui sont, je pense, mal écrits, qui n'ont aucune qualité littéraire, aucune qualité d'écriture. Et quand il y en a un qui est particulièrement bien écrit comme celui-là, ben j'avoue que je m'en réjouis et je le porte très haut, comme vous l'avez compris maintenant.
En plus, il est bien dessiné par Stéphane Fer, qui, lui, n'était pas du tout dans ce registre auparavant.
Spontanément, on dirait non, parce que, par exemple, Stéphane Fert, on pense à Peau de mille bêtes, qui est une histoire qui est du ressort du conte de fées un peu sombre, enfin, pléonasme, hein, les contes de fées sont souvent très sombres, voire toujours. Mais en même temps, il y a un aspect un peu d'une nature sauvage dans l'histoire qui nous occupe dans Blanc autour, qui ramène à ce qu'a déjà illustré Stéphane Fert comme type d'histoire. Vous avez raison, c'est essentiellement un album historique.
Alors, on va se pencher sur la couverture, puisque je l'ai mentionné. Que voit-on sur cette couverture ? Un groupe de femmes.
Qui se dirigent vers quoi ?
On ne sait pas.
Elles sont noires, elles sont jeunes.
Elles sont habillées d'une manière un peu particulière, enfin pas de notre époque en tout
voilà,
cas.
Voilà, on comprend que ça se situe dans le temps, et quand on ouvre l'album, on comprend que c'est une histoire vraie et qu'elle se situe, c'est très précis, en 1832, aux États-Unis, bien des années avant la guerre de sécession.
Dans le Connecticut.
Dans le Connecticut, pour être précis. Ça nous a donné l'occasion de vérifier où se trouvait le Connecticut.
Ben c'est du côté de New York, un peu au-dessus, si je ne me trompe.
Dans la petite ville de Canterbury. Voilà, ce groupe de femmes, en fait, se dirige vers une école. On est dans une petite ville où la maîtresse de l'école est unanimement appréciée et respectée par la population blanche. On est dans un état où l'esclavage a été aboli. Pas au niveau du pays, mais dans cet état, l'esclavage est aboli. Ce qui ne veut pas dire que les esclaves sont libres. Dans les faits, ils sont toujours une minorité opprimée, d'autant plus qu'un an auparavant, il y a eu une croisade sanglante menée par Nat Turner, un esclave noir qui s'est révolté en une sorte de... Alors, attention, les mots sont piégés. Se revendiquant d'une certaine interprétation de la Bible.
Il était pasteur, hein, il faut
voilà,
le dire.
Voilà, il était pasteur. Il a mené une croisade sanglante, ô combien, contre les oppresseurs blancs, avec des véritables massacres d'hommes, femmes, d'enfants, vieillards. Tout ça se termine dans un bain de sang, puis dans une répression féroce, parce que, évidemment, les blancs vont imposer leurs lois, vont se venger. Des milliers de morts noirs, une campagne de terreur avec des exécutions expéditives, des lynchages, etc. Enfin, voilà, un climat d'oppression au mieux, de terreur au pire. C'est pas ce qu'on appelle des esclaves libres.
C'est une histoire qui est racontée, une histoire vraie, donc, hein, pour cette partie avec Nat Turner, aussi appelé Ned Turner, dans le film The Birth of a Nation. Si vous voulez voir de quoi il en retourne, enfin, c'est une version, en tout cas, de l'histoire.
Donc un climat bien particulier. Cette épopée sanglante, elle est remise en mémoire régulièrement par une sorte d'enfant sauvage qui vit dans la forêt, qui est en contact avec les jeunes noirs qui sont employés au service des blancs. Lui, c'est un peu le témoin d'une nature inviolée, d'instinct primitif, enfin, ce qui représente a beaucoup d'importance dans l'histoire, je pense. Parmi ces jeunes noirs, il y a une jeune fille intelligente et curieuse qui plonge un bâton dans l'eau, et le bâton est cassé. Enfin, il apparaît cassé. Elle se demande pourquoi. Pourquoi, quand elle retire le bâton de l'eau, il est normal d'une pièce, et pourquoi dans l'eau, il paraît courbe, voire cassé.
Ça rappelle des expériences d'enfance, ça.
Voilà, complètement. Et elle va s'ouvrir de ce problème à l'institutrice.
Prudence Crandall, et puis la jeune fille, Sarah Harris Fireweather.
Et cette institutrice est piquée au vif, et lui vient l'idée d'accueillir dans sa classe cet élève noir. Donc, levée de bouclier des Blancs, vous n'y pensez pas, qu'est-ce qui vous a pris? L'élève aura une mauvaise influence, puis de toute façon, non seulement c'est une noire, mais c'est une femme. Donc pourquoi éduquer une noire qui est tout juste bonne à être une servante? Ça va lui donner des idées bizarres, etc. Et piquée de plus en plus au vif, l'institutrice va décider d'ouvrir sa classe uniquement aux enfants noirs.
Encore pire.
Et là, elle ouvre la boîte de Pandore, évidemment. Et on va suivre l'évolution qu'on devine dramatique, et on se gardera de déflorer le sujet, les différents événements qui vont s'enchaîner les uns aux autres. Je parlais de l'enfant sauvage qui énonce une attitude vis-à-vis de la société qui est opposée à l'attitude de cette jeune fille noire qui veut s'instruire. Pour elle, les noirs vont gagner une visibilité, une possibilité de vivre dans cette société de blancs par l'instruction. Elles vont engendrer des enfants qui seront encore plus instruits. Paris sur l'avenir. Et l'enfant sauvage lui dit, mais ça c'est, tu veux simplement acquérir une culture de blanc, tu ne seras jamais accepté, c'est un leurre, c'est une erreur. Quelque part, est-ce que ce n'est pas un débat qui a toujours lieu, qui peut être relancé aujourd'hui? Un livre qui est à la fois historiquement très précisément daté, et en même temps, ce qu'il agite comme idée, comme problème, c'est éternel. C'est parce qu'on s'aperçoit que les Noirs sont certes des sous-citoyens, sous-sous-sous-citoyens dans cette histoire, mais en plus des femmes, et la place des femmes dans la société américaine, alors pas seulement américaine, hein, de l'époque, c'est une place de troisième ordre, voire de quatrième.
Bon, j'espère que nos auditeurs auront écouté jusqu'ici, parce que sinon, femmes, Noirs, etc., tout ça, ça donne envie de couper le poste, non? Non, j'exagère. Hein. Enfin, je fais plus qu'exagérer. Il faut prendre tout cela à un autre degré. Et c'est d'ailleurs ce que fait le dessinateur, je trouve. Parce qu'on ne s'attend pas vraiment à ce dessin-là.
Oui, ce qu'on a raconté jusqu'ici, on pense à une histoire extrêmement sombre, plombante, qui pourrait rebuter certains. Et en fait, bah, y a une forme de légèreté qu'on trouve dans les dialogues qui sont vifs, alertes et plein de drôleries. Parce que les personnages qui sont évoqués, c'est des sacrées bonnes femmes, ces petites bonnes femmes, justement. Elles sont intelligentes, elles ont des forts caractères. Et ce caractère, on le retrouve dans ce dessin qui est... Alors, comment le décrire? Si je dis qu'il est beau, ça ne va pas dire grand-chose.
Mais moi, il me fait penser un peu au premier dessin animé de Disney, quelque part, de par les rondeurs qu'on y trouve et les couleurs, peut-être aussi.
Oui, il y a un côté conte, il y a un côté, il y a un charme fou, et la nature est très présente dans le quotidien, la nature sont très présents dans cette histoire et dans la façon dont cet album les présente. Et c'est vrai que ce dessin a un charme très prégnant, qui équilibre ce que ça pourrait avoir de trop dramatique, et c'est vrai que les événements, bon, on ne les déflorera pas, mais tout va aller de mal en pis.
Oui, et puis ça va marquer l'histoire aussi, hein. Il va y avoir un procès, enfin bon, on ne vous raconte pas tout. Hein,
oui, parce que cette institutrice se dressait contre la loi, elle va aller au procès volontairement. C'est le moment où il y a des mouvements abolitionnistes très puissants qui aident les esclaves à s'échapper des états où ils sont opprimés, où on peut payer des avocats pour des procès qui essaient de démontrer que ces lois sont iniques ou contraires à la Constitution. Il y a un mouvement très puissant dans la société. C'est étonnant d'y penser en 1832, mais ça existait. Et c'est très bien raconté avec ce personnage d'institutrice dont on va connaître le destin, ainsi que le destin de plusieurs de ses élèves, dans un dossier qui constitue une postface à cet album. Parce que l'histoire ne s'est pas arrêtée là, entre guillemets. Il s'est passé beaucoup de choses après, c'est passionnant de le découvrir.
Ensuite, on a envie d'aller encore plus loin d'ailleurs, de se renseigner.
Vous le pouvez parce qu'il y a une bibliographie très complète, il y a toutes les pistes pour faire des recherches soi-même, ce qu'ont fait les auteurs d'ailleurs. Et des recherches qu'on peut faire soi-même sur le sujet, sur le destin de ces personnages absolument hors normes.
Moi, je mentionnerai ici une autre bande dessinée qui est parue, je crois, il y a 2 ans, à partir du livre de Tania de Montaigne sur Claudette Colvin, dessinée par Émilie Plateau. Alors, c'est un dessin, là encore, très très différent, hein, des petits personnages en forme de bâton, presque. Mais très intéressant de se souvenir de cette première femme à refuser de céder sa place à une blanche dans un bus. Hein. On a parlé d'autres personnages, mais elle est bien, semble-t-il, la première, Claudette Colvin. Ici, il s'agit donc d'autres personnages. On est au 19e siècle avec Blanc autour. Je rappelle au scénario Wilfried Lupano et au dessin Stéphane Fert, une parution d'Argo. Votre coup de cœur, peut-être pour toute cette année, Thierry.
Oui, d'ores et déjà, sur l'une des marches du podium.
Mais il y en aura d'autres. On peut dire que les parutions sont en ce moment vraiment prolifiques, mais de grande qualité, et ça fait du bien.
Oui, il faudra des marches plus larges dans le podium.
Voilà. Ou plus d'émissions sur Radio Semnose. Merci beaucoup, Thierry. À bientôt.